Entretien avec Thomas Schlesser, Paris, décembre 2023.
Thomas Schlesser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, directeur de la Fondation Hartung Berkmann. Vous avez publié plusieurs essais et ouvrages de vulgarisation et je crois aussi un premier roman en 2004. Pourquoi et comment avoir décidé de repasser à la fiction et comment est né dans votre esprit Les yeux de Mona?
C'était d'abord suite à une épreuve personnelle, liée à des soucis pour réussir à tout simplement à faire une famille. Et du coup, j'ai eu l'envie de m'inventer une petite fille idéale. Et donc, en 2013, j'ai commencé à écrire cet ouvrage en pensant à cette gamine de 10 ans, dont je me disais qu'elle serait l'enfant rêvé. Qu'est-ce que c'est qu'une enfant rêvée? C'est loin d'être une enfant parfaite. C'est une enfant qui est en revanche toujours sensible, à l'écoute, et en même temps espiègle, parfois gaffeuse. Et puis, j'ai eu en tête cette histoire qui m'est venue tout de suite d'une petite fille sur laquelle planerait une menace extraordinairement injuste et qui donc précipiterait son destin, à savoir celui d'accumuler toutes les beautés du monde. Donc voilà, c'est né, c'est vrai, d'une sorte de moment pas très facile pour moi, mais c'est doublé aussi cette volonté d'écrire ce roman de quelque chose d'assez constant dans ma carrière d'historien de l'art, qui est d'écrire l'histoire de l'art un petit peu autrement. Et vous savez, en fait, moi, mon ambition qui traverse beaucoup mon travail plus académique, plus universitaire, c'est de montrer comment l'art peut se mettre au service de la vie. Et c'est pas évident, ça, de le formuler sous forme d'essai. Et du coup, je me suis aussi dit que pour réussir à traduire cette manière dont la peinture, la sculpture, la création en règle générale, eh bien, pouvait infléchir l'existence, la fiction serait le bon canal. Voilà.
Alors justement, vous qui êtes habitué à l'écriture, quand on écrit un essai, faut être très exhaustif. Quand on écrit une fiction, faut faire attention. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, justement, ce travail de la fiction?
Ce qui a été compliqué, c'était d'élaborer, comme je le souhaitais, le parcours, le voyage, qui fasse coïncider de façon vraiment très très constante le versant artistique et le versant romanesque. Ça, c'est le versant du savoir en termes d'histoire de l'art et puis le versant vraiment de l'écriture narrative. Bon. En revanche, même si c'était difficile, et ça l'était, c'était naturellement aussi un immense plaisir qui procède d'un sentiment de liberté. Comme vous le dites, en effet, quand on fait un essai en histoire de l'art, on tend à l'exhaustivité, je sais pas si on y arrive, mais on tend à la définition d'un corpus, à répondre à une problématique, etc., etc., à suivre une méthodologie. Quel bonheur, à un moment donné, de sentir la gangue de la méthodologie qui vole un peu en éclats pour dire ce qu'on a envie de dire. Donc, difficile, je dirais que c'était fastidieux, c'est-à-dire que c'était très long, parce que c'était un gros travail, mais en revanche, non, c'était un plaisir, bien sûr.
Est-ce que les 52 tableaux donc, qui font l'originalité du roman sont très vite imposés à vous? C'est votre liste, les 52 tableaux qu'il faut avoir vus dans sa vie?
Alors c'est intéressant que vous disiez tableaux parce qu'il n'y a pas que des tableaux. Mais je trouve que c'est un lapsus qui est tout à fait signifiant. Il y a une majorité de tableaux, mais il y a également des incursions du côté de l'installation, de la sculpture, de la photographie. Et justement, pour répondre à votre question, dans un premier temps, ce sont plutôt des tableaux qui me sont venus à l'esprit. Et puis, au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il y aurait quelque chose d'assez... un vrai défi, justement, à démultiplier aussi les types de descriptions. La liste, eh bien, elle s'est renouvelée sans arrêt, sans arrêt. Et puis même, pour vous dire un petit secret, jusqu'à... quelques semaines du rendu définitif, il y a des œuvres qui ont encore changé et donc des chapitres qui ont été réécrits. Donc non, on peut pas dire que ce soit imposé. En revanche, que je dirais, ce qui s'était imposé très vite à mes yeux, c'est qu'il fallait un bon équilibre entre des œuvres qui parlent à tout le monde. Ça, c'était important. Il fallait quand même un socle. Donc, il fallait qu'il y ait, je sais pas, le Serment des Horaces de David ou la Joconde de Vinci. Bon, mais il fallait aussi des œuvres beaucoup moins attendues. Il fallait le bon équilibre entre les deux et les œuvres moins attendues. Là, en revanche, je me suis permis de m'étonner moi-même en allant au musée, puis en me disant tiens, qu'est-ce qui accroche mon regard et qui pourrait nourrir l'expérience de Mona et de Henri.
Et alors si là on vous annonce que vous n'avez plus que 52 semaines pour voir des œuvres, vous choisiriez quelles œuvres, celles-ci ou peut-être d'autres, s'il devait même en rester qu'une?
Déjà, elles sont maintenant tellement ancrées en moi, celles-là, tellement je les ai travaillées que bon, je vous cache pas que je ne serais pas déçu d'aller vers d'autres tableaux ou d'autres sculptures pour un peu... Mais je pense qu'en effet, c'est quand même une belle liste pour faire une sorte de raccourci esthétique et amoureux de l'art. Encore qu'il faut bien préciser, je pense que c'est vraiment important de le souligner, que pour plein de raisons, c'est quand même l'art occidental et que il n'est pas interdit quand même de s'ouvrir vers plein d'autres cultures. Henri et Mona s'y ouvrent à travers ces œuvres-là. Mais enfin, en ce qui me concerne, si j'en avais la possibilité, je pense que je m'ouvrirais à plein d'autres choses, je m'ouvrirais aux jeux vidéo, je m'ouvrirais à l'estampe japonaise, je m'ouvrirais au cinéma russe, enfin il y aurait plein de choses. Et puis s'il y en avait qu'une à retenir parmi toutes celles-ci, comme je sais qu'on va me poser la question à chaque fois, je crois qu'à chaque fois qu'on va me poser la question, je vais faire une réponse différente.
Alors, quelle sera ma réponse?
Alors, pour vous, écoutez, ce serait, et donc c'est la première fois que j'y réponds, donc ce sera la Croix de Malevitch. Voilà, pour une raison simple, c'est que la Croix de Malevitch, c'est une sorte de degré complètement élémentaire à partir duquel tout est possible. Donc voilà, la Croix de Malevitch.
Et alors la beauté du roman, c'est la relation entre ce grand-père et sa petite-fille. Et donc la particularité, c'est un homme assez âgé avec une enfant. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous placer à hauteur de petite-fille dans les dialogues et même aussi dans votre manière de parler des œuvres?
Alors, en fait, pour parler comme Mona, avec Mona, faire parler Mona, j'ai tout simplement pensé à moi tout le temps. Quand j'étais enfant, hein. Mais il fallait quand même une altérité. C'eût été un peu, je sais pas comment dire. À mon avis, ça aurait été plus difficile de vraiment être trop proche de mes sensations personnelles, de mes souvenirs personnels d'enfant. Donc, en effet, je pensais à moi, à mes propres réactions. Et puis, naturellement, comme vous en doutez, j'ai beaucoup aussi écouté des enfants entre 8 et 12 ans autour de moi. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, Mona a plutôt le niveau de langage d'une enfant de 12 ans que d'une enfant de 10 ans. Mais enfin, c'est pas très gênant parce que tout dépend, il n'y a pas de règle unique. Et ça a été difficile pendant un long moment jusqu'à ce que, en fait, je travaille sur la fameuse petite singularité du langage de Mona. Ça, je savais dès le départ qu'il fallait que ce soit là, mais je l'avais pas encore complètement trouvé. On a la révélation de ce que c'est cette singularité du langage de Mona à la fin du roman, mais dès le début, Henri prévient le lecteur en disant il y a quelque chose quand même d'un peu particulier dans la manière dont Mona s'exprime. Donc c'est une façon d'inviter le lecteur à être attentif et à peut-être trouver la clé. Bon, celle-ci est donnée en effet à la toute fin. Et à partir du moment où j'avais la possibilité de travailler avec celle-ci, donc avec une contrainte, mais tout était beaucoup plus facile puisque Mona trouvait sa petite voix.
Vous avez déjà donné des cours à des enfants?
Oui, bien sûr. Alors, donner des cours à titre, j'enseigne que dans le supérieur, donc pas à titre de professeur, mais j'ai fait quantité de fois, évidemment, des interventions dans des écoles, dans des collèges, dans des associations. Bien sûr, j'adore ça. Malheureusement, les occasions de le faire sont trop rares, mais c'est évidemment quelque chose qui m'amuse beaucoup, oui.
Est-ce que parfois vous laissez un peu surprendre par leurs commentaires, et là par exemple par les commentaires de Mona dans l'écriture, en me disant ah oui c'est vrai, j'avais jamais envisagé les choses comme ça?
Oui. J'ai eu, par exemple, dans le roman, il y a un personnage qui s'appelle Diego, alors qui ne parle pas de peinture dans le roman, mais qui est un gamin un peu rêveur dans toutes les parties sur l'école, qui est directement inspiré par un enfant que j'avais vu lors d'une intervention dans une école il y a quelques années. Et cet enfant, je vais vous raconter l'anecdote qui est assez savoureuse. J'intervenais devant des CM2, c'était des CM2 qui étaient excellents. Et cet enfant-là me semblait quand même sympathique, mais pas tout à fait au niveau des autres CM2. Et ensuite, l'institutrice m'a dit « Mais tu n'as pas arrêté de lui donner la parole, tu ne t'es pas rendu compte que c'était un CP qui avait été en fait placé parmi les CM2 ». Et en fait, ce qui est dingue, c'est que toutes les remarques de ce gamin qui tombait un peu à côté, qui était très naïve, je les trouvais ravissantes et très stimulantes. Et donc, bien sûr, j'adore me laisser déstabiliser par le regard des enfants sur l'art. Je vais prendre un exemple dans le roman, alors qui est une invention de ma part. J'ai pas entendu ça de la bouche d'un enfant, mais qui est exactement le genre de choses qu'on pourrait trouver. À un moment donné, Mona se trouve devant le labourage nivernais, donc un tableau de Rosa Bonheur qui se passe dans un champ où il y a des animaux. Et puis, il y a toute une masse de terre, des mottes de terre au premier plan. Et Mona voit ça comme du chocolat. Et en effet, souvent le regard des enfants projette notamment des fantasmes alimentaires. ils ont envie de manger la peinture. Et ça, c'est formidable parce que ça nous dit une chose toute simple, hein, c'est que l'art ne se perçoit pas simplement avec les yeux, mais avec tous les sens, y compris le goût. Donc de la terre comme du chocolat, comme une mousse au chocolat, pourquoi pas.
Il y a un passage sur l'enfance qui m'a beaucoup fait sourire, c'est lorsque Henri se trouve dans la chambre de Mona, qu'il dit il faisait le constat affligeant que le temps de l'enfance est par commodité majoritairement imprégné d'objets futiles et laids. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut enseigner l'art aux enfants?
C'est vrai que... Attendez, on a tous fait l'expérience, il faut être honnête. Quand on arrive dans une chambre d'enfant, il y a quelque chose d'extrêmement sympathique, qui est, je sais pas, attachant. Enfin, c'est vraiment très laid. Il y a quelque chose. Mais ben, en effet, le mot est, je crois, assez bon d'affligeant dans la. Et je pense, en revanche, il faut éviter d'avoir une espèce de vision trop tutélaire qui consisterait à dire, mais face à cela, il faut le remplacer brutalement par ce que serait ce qu'ont accompli de plus beau les artistes dans le monde. De toute façon, c'est pas possible. C'est comme l'éducation du palais. Avant de pouvoir savourer l'amertume, il va falloir quelques étapes. Donc, ce n'est pas possible. Et il faut un petit moment pour se défaire des bonbons. Et même quand on est adulte, alors qu'on sait que les bonbons sont des cochonneries, c'est d'ailleurs le mot qu'on emploie, on continue parfois à en consommer avec plaisir. Ben c'est pareil, je crois, avec l'univers visuel. On peut revenir avec sourire, avec tendresse, à ce qu'est l'univers d'une chambre d'enfant. Mais enfin, c'est pas mal de se dire que plus on s'y met tôt pour sensibiliser des gamins à ce qu'il peut y avoir d'extraordinairement excitant, stimulant, complètement, qu'est-ce qu'il y a de toute la qualité de transport qu'on peut trouver dans une œuvre. Si on s'y prend tôt pour les sensibiliser à ça, les résultats peuvent être vraiment formidables.
Alors c'est aussi un livre, sans trop en dévoiler, sur la famille, sur la transmission, sur le poids des secrets. Est-ce que vous aviez envie de partager un petit peu aussi toutes ces valeurs dans votre écriture?
Oui, c'est le cœur, la profondeur du roman, même si c'est un grand roman sur l'art, une vaste fresque sur l'art. Évidemment, quand même, le nœud, il est autour du secret, de la famille, du non-dit, je dirais quasiment de la boule de mélancolie qu'il y a à la fois en chacun de nous et dans les cellules qui nous attachent les uns aux autres, de parents à enfants. Et c'est bien sûr, c'est tout à fait au cœur du propos, avec en plus, je crois, des choses qu'on a tous traversées dans les familles, à savoir la problématique du deuil, de la disparition, pourquoi un tel n'est plus là, qu'est-ce qui s'est passé, et qui est par essence le thème universel, puisque c'est triste à dire, mais nous sommes tous habités par cette durée de vie limitée. Et Mona, fondamentalement, en effet, apprend tout ça, parce que c'est le grand apprentissage de l'enfance. C'est que on a la vie devant soi, mais que la mort est là. Voilà.
Puis il n'y a pas que Mona qui apprend. Henri apprend aussi beaucoup à son contact.
C'est ça qui est merveilleux, c'est que Henri, qui est quand même une personnalité parfois un peu forte, un peu austère, sauf avec Mona. Avec Mona, il est un grand-père ouvert à tout, mais sinon on sent que c'est quand même une personnalité un peu à l'ancienne, dirait-on. Et Henri est à cette formidable capacité d'émerveillement que perdent trop d'adultes lorsqu'ils ont quitté leur qualité d'enfant. Et Henri garde cela. Ça ne veut pas dire qu'il a le côté facétieux ou clown d'un grand-père qui serait sans, je sais pas comment dire, sans retenue. Il a toujours cette espèce de dignité, de droiture, d'élégance, mais face parfois aux naïvetés de Mona, qui de temps en temps d'ailleurs se sent un peu honteuse de dire quelque chose qui dans sa bouche ne correspondrait pas exactement à l'exigence qu'elle perçoit chez son grand-père. Et son grand-père, lui, il s'en moque. C'est ce qui est merveilleux pour lui, c'est de voir l'épanouissement. Et l'épanouissement, il passe évidemment beaucoup par la fantaisie, l'originalité, le regard innocent de l'enfance, le regard facétieux de l'enfance.
C'est peut-être aussi le luxe un peu de la vieillesse. Il est plus détaché que les parents de Mona qui, eux, sont très inquiets, très, très factuels aussi, plus que lui.
C'est vraiment le cœur de ce que je voulais faire passer, qui relève aussi de mon expérience personnelle, pour le coup. C'est qu'il y a un lien possible entre grands-parents et petits-enfants qui est tout à fait différent que celui du lien direct entre parents et enfants, où la pression mutuelle est beaucoup plus forte. On le sait tous. Alors, je dis pas que entre tous les grands-parents et tous les petits-enfants, tout est systématiquement merveilleux. Mais en tout cas, c'est une porte ouverte vers des relations qui ont un potentiel, mais infini. Et c'est le cas entre Henri et Mona. Et je vais vous dire une chose. En parlant autour de moi, je constate que quand on déverrouille ce sujet de conversation des liens entre grands-parents et petits-enfants, mais il y a un nombre de personnes qui ont des vraiment vraiment des flots d'émotions parce que leurs grands-parents, ça relève des meilleurs souvenirs de leur enfance. Encore une fois, je dis pas pour tout le monde, mais c'est extrêmement fréquent. Et inversement, comme vous le savez certainement, dès que vous êtes avec des grands-parents et que vous leur parlez de leurs petits-enfants, c'est-à-dire ils ont le cœur ouvert avec, je sais pas quoi, une espèce de bouffée de vitalisme qui est très réjouissant, tout simplement. Hein.
Alors, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion de l'enregistrement du livre audio. Est-ce que l'oralité, le livre audio, quelque chose qui a sa place dans votre vie, dans votre processus parfois d'écriture?
Alors, dans mon processus de lecture, beaucoup, parce que j'écoute énormément de livres audio. Je vais vous donner 2-3 livres que j'ai écoutés en livre audio. J'ai par exemple écouté, je l'avais lu d'abord, mais quand j'ai voulu le relire, je l'ai fait en livre audio, 1984 d'Orwell. J'ai fait Welbeck en livre audio. Non, alors parmi les classiques, évidemment, comme beaucoup, j'avais lu Proust dès mes 20 ans, et je l'écoute en différents livres audio avec... Donc le livre audio est vraiment présent dans ma vie, pas que d'ailleurs la fiction, également les essais, écouter des discours, voyez par exemple, je suis pas sûr d'avoir fait, mais j'écouterais volontiers les discours révolutionnaires ou Bossuet en livre audio, ou les discours de Victor Hugo. Donc voilà, donc c'est très présent. Et par ailleurs, quand j'ai écrit Mona, c'était un petit rêve niché dans le coin de mon cerveau, parce que je sais très bien que les livres audio ne s'adressent pas que aux non-voyants ou aux malvoyants, pas du tout, j'en ai tout à fait conscience puisque j'en suis un consommateur. Mais en revanche, étant donné la spécificité narrative du livre, et puis l'espèce de petit défi littéraire que je m'étais donné en faisant ces ekphrasis, ces descriptions d'œuvres qui pourraient parler à des gens qui ont perdu la vue ou qui n'ont jamais eu, eh bien, je me disais, ce serait formidable que Mona existe en livre audio, et pour tout vous dire, également en braille. Et donc, quand j'ai appris que il y aurait donc sa production en livre audio, et il se trouve qu'il va sortir également en braille, j'en ai été, mais extrêmement heureux, parce que ça faisait sens, si vous voulez. Il y avait quelque chose qui relevait d'une logique intrinsèque. Donc j'étais super content.
Alors là, le livre n'est pas encore sorti, mais c'est déjà, on peut le dire, un très grand succès, un livre très remarqué, qui a déjà été traduit dans plusieurs langues, un succès mondial. qu'est-ce que ça vous fait? C'est quand même assez fort.
Alors, évidemment, je vais pas... D'abord, c'est une très grande surprise. Hein, 25 langues, et puis 25 langues très différentes, si vous voulez. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a le russe, l'arabe, le coréen, le chinois, l'estonien, le polonais. Donc, c'est pas que l'italien ou l'espagnol, j'étais déjà vraiment absolument enchanté, mais c'est cette diversité culturelle qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que ça signifie que dans un livre qui est très situé, bon, c'est Paris avec des œuvres d'art occidentales, avec donc un grand-père et une petite fille. On pourrait imaginer quelque chose d'un peu serré sur un petit monde. Eh bien, en fait, ça parle à absolument toutes les cultures. Donc, naturellement, que ça, on peut pas avoir plus beau cadeau. Donc, j'en suis extrêmement et surpris et heureux. Et après, non, j'ai qu'une seule impatience, c'est d'entendre ce que les lecteurs de contrées si diverses vont pouvoir me dire de ce qu'ils perçoivent de ces œuvres à travers Mona, et puis de cette histoire à travers Mona. Mais c'est formidable, oui.
Alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais est-ce que ça vous a donné envie de recommencer, d'écrire d'autres romans cette fois-ci encore ?
Alors, je n'ai jamais été quelqu'un qui fantasmait sur la position sociale ou culturelle du romancier. J'ai jamais érigé la fiction, au nom du fait qu'elle serait une création, comme une sorte d'alpha d'une vie. J'ai toujours en fait cherché, quand j'avais quelque chose à dire, à trouver la forme la plus adéquate pour le dire. Vous voyez, entre le moment où j'ai commencé à écrire Mona et puis la fin de la rédaction, j'ai écrit 3 essais. Parce que je considère, enfin, j'ai écrit 2 essais et une biographie. C'est pas tout à fait la même chose. 2 essais et une biographie. Parce que je considérais que ce que j'avais envie d'aborder comme sujet, bien se matérialisait le plus pertinemment possible dans la forme de l'essai ou dans la forme de la biographie. Donc, pour répondre à la question, je ne cherche pas à réécrire une fiction pour réécrire une fiction. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que pour certains des sujets qui m'intéressent, le récit, la fiction, l'imagination vont devoir jouer leur rôle à nouveau.
On imagine très bien que ça pourrait aussi être un très beau film.
Avis aux amateurs.
Oui.
je vais vous dire là encore, bien sûr, ça pourrait être un très beau film. Et c'est pas du tout une manière d'écarter l'opportunité film. J'en serais enchanté. Enfin, je veux dire, ça serait absolument magique. Mais quand j'ai écrit Mona, et qu'il m'est arrivé de me dire « Tiens, qu'est-ce que ça donnerait si c'était adapté ?» je pensais plus au film d'animation. Vous voyez, aux choses un peu à la Pixar. Pas nécessairement Pixar, c'est pas pour dire, mais aux choses à la Pixar, parce que je trouve que les personnages s'y prêtent bien. Et parce que, à travers la façon dont ils abordent les œuvres d'art, je crois qu'il y a un potentiel de traduction dans le cinéma d'animation qui peut être absolument génial. Absolument génial. Mais déjà qu'il soit lu sous forme de livre audio, croyez-moi, c'est déjà tout à fait suffisant et satisfaisant.
Et alors pour terminer, qu'avez-vous gardé de Mona et Henri en terminant votre écriture ? Qu'est-ce qui vous reste d'eux ?
Ils sont, je vais dire, un lieu commun. Enfin, ils sont vraiment là du matin au soir. Ils étaient là pendant la rédaction. Ils sont encore là. J'aurais tendance à dire qu'ils étaient même là un peu avant que l'idée ne me vienne. Je dirais que Henri est en permanence dans mon quotidien comme une espèce de modèle pour bien vieillir, voilà. Et Mona, c'est simple, c'est exactement le meilleur que nous avons en chacun de nous. Point. Il y a pas plus. C'est le meilleur que nous avons en chacun de nous.
Bon, c'est très beau pour terminer. Merci beaucoup.
Merci.